Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. En Ukraine, une attaque russe dans une gare fait plus de 50 morts. En Belgique, une usine Ferrero qui est fermée par les autorités sanitaires pour cause de trop grand nombre de cas de salmonellose. On verra ça dans ce journal. Et en France, je vous le disais en titre, la campagne électorale qui est terminée. Les Français voteront demain à travers le monde. On débute ce journal donc avec l'Ukraine. Au moins 52 morts sont à déplorer après le bombardement de la gare de Kramatorsk, une ville située sur la ligne de front dans la région du Donbass, une ville qui fait face à l'avancée des forces russes dans la région. Environ un millier de personnes attendaient sur le quai de la gare afin d'être évacuées quand le bombardement a eu lieu. Les autorités russes nient toute implication et le président ukrainien dénonce un crime inhumain. Pour John Kirby, l'un des porte-parole de la Maison Blanche, cette attaque ne fait aucun doute. On l'écoute.
We find unconvincing Russian claims that they weren't involved, particularly when the ministry actually announced it, and then when they saw reports of civilian casualties, decided to unannounce it. So our assessment is that this was a Russian strike, and that they used a short-range ballistic missile to conduct it.
C'était donc John Kirby, le porte-parole, l'un des porte-paroles de la Maison-Blanche. Toujours en Ukraine, direction Mykolaïv, une ville qui se trouve sur la route du port d'Odessa. La ville comptait plus de 450 000 habitants avant le début des hostilités. Et avec le resserrement des combats à l'est, la tension monte encore d'un cran dans cette ville. On l'écoute.
Derrière l'hôpital, une tractopelle est en action. Des murs de protection sont montés autour du local qui renferme les réserves d'oxygène. La sécurité de l'établissement est revue à la hausse après le bombardement de lundi.
Une bombe à fragmentation a explosé ici. Ça se disperse dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de casses.
Dans la cour, le médecin-chef de l'hôpital pédiatrique régional, Alexandre Plitkin, montre les dégâts. Vitres brisées, fissures sur les façades, des centaines d'éclats sur les bâtiments et sur le bitume, les impacts caractéristiques des armes à sous-munitions en forme de rosaces.
Ici stationnaient des voitures, elles ont été défoncées. Des sous-munitions ont même atterri là-bas, dans l'autre aile, où 18 fenêtres ont été soufflées. Partout, il y avait des billes, des bouts de métal, tout volé autour. C'est typique des bombes à sous-munitions. J'ai compris que c'était une arme terrible. Pourquoi ont-ils décidé de bombarder un hôpital pédiatrique? C'est une grande question. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans leur tête.
Aucun patient ni soignant n'a été touché au cours de l'attaque, mais les explosions ont fait des victimes à l'extérieur. Elles ont reçu les premiers secours dans l'hôpital pédiatrique.
Et c'était un reportage d'Anastasia Becchio en Ukraine, donc pour RFI. Des hauts responsables de l'Union européenne ont visité des sites sur les récentes attaques russes en Ukraine, non loin de l'une des trois fosses communes découvertes à Boutcha depuis le retrait des troupes russes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est engagée à soutenir l'Ukraine, et je cite, de toutes les manières possibles. Outre plus d'armes, Ursula von der Leyen a promis d'accélérer la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, affirmant que cela pourrait être solutionné en quelques semaines. Elle a remis au président Volodymyr Zelensky un questionnaire qui est la première étape de la candidature du pays à l'adhésion à l'Union européenne, dont ce qui est susceptible, on le sait, d'exaspérer davantage les Russes. On écoute Ursula von der Leyen.
The unthinkable has happened here. We have seen the cruel face of Putin's army. We have seen the recklessness and the cold-heartedness with which they have been occupying the city.
Et c'était la présidente de l'Union européenne, donc Ursula von der Leyen. 13h05, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Les experts occidentaux s'accordent à dire que l'armée russe est pour le moment très affaiblie par les pertes survenues dans son camp en Ukraine et qu'elle ne s'attendait pas à de telles résistances à travers le pays. Ils décrivent un début de conflit raté par les Russes qui espéraient prendre Kiev en quelques jours. On écoute l'avis de Philippe Gros, il est chercheur à la Fondation sur la recherche stratégique à Paris.
Vous avez 100% des forces vives, des capacités opérationnelles réelles de la force terrestre russe engagées en Ukraine. Ils subissent des pertes énormes, une usure énorme. Selon les Américains, la semaine dernière, ils avaient tiré 1300 missiles. 1300 missiles calibre Iskander, même missiles Bastion, et missiles de défense côtière, ceux qui ont été tirés sur Odessa. Ce stock de missiles de précision, donc conventionnel, en tout cas, il est largement dépensé. Or, c'est un stock qui a été amassé année après année. Sur ce plan-là, l'armée russe, quand bien même elle pourrait industriellement remonter en puissance, elle ne disposera plus, sur le plan conventionnel, des capacités de projection de puissance qui étaient les siennes avant le conflit. Même si la guerre s'arrêtait au bout de ces deux mois d'opération, avec d'une part les pertes qu'ils ont subies, d'autre part ce qu'ils ont dépensé comme ressources et les efforts qu'il faudrait en termes de régénération des capacités sur le plan industriel, compte tenu des sanctions, notamment sur toute une série de ressources critiques. Sur le plan conventionnel, leur appareil de force, il est structurellement affaibli et dans des proportions qui me semblent notables.
En Belgique maintenant, c'est toute une usine Ferrero qui est à l'arrêt après de nombreux cas de salmonellose, notamment dans le chocolat Kinder. Cette maladie est l'une des causes importantes de décès par intoxication alimentaire. Les explications de Jean-Jacques Herry à Bruxelles.
L'usine est située à Arlon, au sud de la Belgique, à la frontière avec le Luxembourg. Chaque année, en sortent 7% des volumes mondiaux des produits Kinder. Et pour l'Agence de sécurité alimentaire belge, qui a ordonné l'arrêt du site, le lien entre les confiseries élaborées sur place et la centaine de cas de salmonellose recensés est confirmé. L'usine fabrique toute la gamme de produits Kinder, Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs et Chocobon. Autant de références consommées par les enfants qui seront toutes retirées des rayons à une semaine de Pâques, et ce, indépendamment des lots ou des dates de péremption, précise l'Agence de sécurité alimentaire belge, qui ne veut prendre aucun risque. Alors qu'elle estime avoir reçu des informations incomplètes de la part du groupe Ferrero, ce dernier se défend en évoquant des défaillances internes avec des retards dans le partage d'informations après la détection de salmonelle. Pour le moment, l'enquête sanitaire se poursuit. L'usine ne rouvrira que lorsque les autorités l'auront certifiée.
Et c'était Jean-Jacques Herry à Bruxelles pour RFI. En France, je vous le disais en titre, ce dimanche, les électeurs sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Alors si vous êtes français et êtes inscrit sur les listes électorales, eh bien vous pouvez également voter en Australie, bien entendu. Renseignez-vous auprès de vos consulats ou consulats honoraires respectifs pour connaître le lieu et les heures d'ouverture des bureaux de vote à travers le pays. En France, sur le territoire français, la campagne électorale est officiellement terminée et juste avant la clôture de cette campagne, tous les candidats ont appelé à aller voter, la participation à cette élection étant l'une des questions clés pour ce premier tour du scrutin. D'ailleurs, prenons le temps dans ce journal pour s'arrêter sur ces raisons d'un si fort taux d'abstention possible cette année avec ce reportage de Laurence Théo pour RFI.
Le chien tire sur la laisse et le soleil s'obstine dans le ciel de Paris. Chantal est à la retraite. Pour la première fois de sa vie, elle n'ira pas voter car elle ne fait plus confiance aux politiques.
Ils sont dans leur propre monde et dans ce monde qui est en fait un monde de technocrates et non pas d'un monde réel. Et il ferait bien de descendre un petit peu dans la rue et de savoir combien coûte un ticket de métro. Et cette fois-ci, je n'irai pas voter.
Même constat pour Mustapha, 40 ans. Dans son dos, un mur de paquets de cigarettes, il tient le bureau de tabac.
Et on a l'impression qu'on a un très gros décalage avec les gens qui soi-disant nous représentent alors qu'on on s'y retrouve pas.
Le vote est un droit. Est-ce que les abstentionnistes ne se privent pas de ce droit?
En fait, en ne votant pas, c'est une forme d'expression.
Politologue Dorian Dreuil est également cofondateur de l'ONG A Voter. Il avance une explication.
Il y a une abstention qu'on pourrait appeler d'abstention civique, de gens qui ne souhaitent pas participer au scrutin par choix, parce qu'ils ont le sentiment que le politique ne leur parle pas. Et là aussi, c'est un enjeu, la représentation. Beaucoup de citoyens ont le sentiment que les politiques ne leur ressemblent pas. Et pour rassembler, il faut ressembler.
Selon l'Ipsos, l'abstention pourrait franchir la barre des 30% le 10 avril prochain. Un record pour une élection présidentielle sous la Ve République. À 150 km de Paris, la banlieue de Rouen. Mehdi a 29 ans, il travaille par intermittence dans le bâtiment. Il est désabusé et ne votera pas à cette élection comme aux précédentes.
Avec le temps, malheureusement, c'est devenu une habitude. On n'y croit pas. Vous allez tout de suite parler à une bande de jeunes au Château Blanc ou n'importe où. On va leur expliquer que oui, il faut faire sa carte pour voter. Bah, voilà. À part des stades de foot, nous, on nous a jamais fait grand-chose. Et encore, des stades de foot, ils existent depuis longtemps. Et à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, eh ben, on nous repousse. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on ne s'intéresse pas à la politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas notre mot à dire.
Mais l'abstention peut être un signe de désespoir. Les jeunes qui discutent dans le hall de cet immeuble de 15 étages d'une cité à Sarcelles, ville pauvre de la banlieue parisienne, eux n'espèrent rien. Mohamed, Rachid et Kevin se sentent abandonnés.
Regardez madame, le plafond il est tout craqué, il y a des gros trous, on voit des tuyaux, il y a de la merde, on sait pas ce que c'est. C'est limite, hein. C'est limite, limite. Hein.
Je fais pas confiance à la politique, c'est tous les mêmes. Ils font tous un discours qu'après ils assument pas.
La gauche, la droite, au milieu, là-haut, en bas. Et ici on s'intéresse pas à ça.
Personne, je crois que personne de ce bâtiment va voter. Personne.
Lors de la présidentielle de 2017, un jeune sur trois s'était abstenu de voter au premier comme au deuxième tour.
C'était donc un reportage de Laurence Théo sur RFI. Je vous rappelle une nouvelle fois que eh bien, c'est un droit de voter en France. Si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à consulter les sites de vos consulats respectifs pour savoir où se trouve le bureau de vote le plus proche pour vous. 13h12, petit tour de la météo en Australie pour cet après-midi. À Perth, il fera 23 degrés. Adélaïde, 28 degrés. À Melbourne, 26. Hobart, 24. Canberra, 21. Vous aurez 24 degrés à Sydney. Il fera 27 à Brisbane, Cairns 31 degrés et la palme des températures comme à chaque fois, c'est 34 degrés pour Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité en ce 9 avril. En Ukraine, une attaque russe sur une gare qui a fait plus de 50 morts. Une usine Ferrero en Belgique qui est fermée par les autorités sanitaires à cause d'un grand nombre de cas de salmonelle, notamment dans le chocolat Kinder. Et en France, on vient de le voir, la campagne électorale qui est terminée. Les Français voteront demain à travers le monde.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.